Dans le métro, j'étais en train de ruminer un petit peu mes notes depuis le début de cet atelier. Et je me disais que sur les portes d'entrée qui avaient été suggérées autour de cette problématique énergie, innovation et développement territorial, je ne sais pas si nous les avions particulièrement étayées, Philippe, au cours de nos débats. Ce qui est sûr, c'est que l'invitation que Luc nous a faite d'aller l'explorer autour de la région Aquitaine nous a amené à, peut-être pas analyser de fond en comble le sujet à la maille d'un territoire régional, mais au moins d'aller dans des fonds et dans des combles relativement divers qui permettent à chacun d'avoir des perspectives, me semble-t-il, assez intéressantes du sujet. Et nous avons organisé ce matin notre institution autour de cette mise en perspective de ces points que sont l'innovation, l'énergie dans les territoires. Je vais donc passer la parole à Luc, qui va nous faire une sorte de carnet de voyage, de restitution de ce que nous avons été amenés à voir. Je ne sais pas, Luc, finalement, si ton document a été diffusé à tous les participants. Il est là. Franchement, il vaut le coup d'être lu, pour le coup, un peu de fond en comble, pour voir un peu cet aspect kaléidoscopique de tout ce qui peut se tramer dans une région. Viendra après le temps de Serge, qui remplace au pied levé... où est-ce qu'il est, Serge ? Je ne sais plus. Oui, qui remplace au pied levé Christelle, qui a eu la bonne idée d'attraper une grippe, on ne sait pas laquelle, sur le thème de l'innovation. Puis le temps de Hélène et Jean-François, ou Jean-François et Hélène, sur la problématique de l'énergie, avant un temps de débat qui sera animé par Xavier. Pour finir mon propos introductif, dans ce temps de l'atelier, il y a eu, me semble-t-il, un concept qui est devenu de plus en plus à la mode, c'est le concept du smart. Jean-François, vous parlez des smart grids. Obama parle de smart bridge, de smart roads. L'Europe vient de lancer un programme de smart towns. J'ai lu, je ne sais plus, ici ou là, on parlait même de smart countries maintenant. Donc c'est une bonne nouvelle, l'intelligence est de retour. Cela étant, ce n'est pas parce que Jean-François va parler de smart grids que Jean-François a le monopole de l'intelligence. Quoique, d'expérience, pour le pratiquer, je sais qu'il est très intelligent. Mais quand même, je crois que l'intérêt de cette restitution, elle est de l'ordre du smart, effectivement, mais du smart collectif. Et qu'au bout du compte, les débats que nous avons eus au sein de l'atelier ont toujours été très intéressants. Je disais à Philippe que mon regret a été, ici ou là, d'avoir oublié de vous enregistrer dans vos confrontations de points de vue. Il y avait une vraie richesse de débat. Ce matin, vous êtes enregistré, non pas tant pour cliquer, même si nous avons un gendarme à table, table des débats, ce que vous racontez, et pour pouvoir alimenter ce qui sera la restitution écrite que nous essaierons de faire à l'issue de ce débat. Voilà, je vous souhaite un bon voyage et je passe la parole à Luc.
Merci Olivier. Alors, le PowerPoint, c'est toujours délicat, on fait toujours des cartes trop petites, c'est pas très lisible. Je dirais que ce n'est pas trop grave parce que ce carnet de voyage, c'est un peu comme un album de photographie. On s'est dit que pour rendre compte d'un voyage d'études en quelque sorte, même s'il fut bien plus court que celui que nous avons fait en Allemagne, rien de tel que de proposer quelques images qui vous permettaient aussi un peu de visualiser ce que nous avons examiné ensemble, observé, et même s'il s'agit d'un aperçu très partiel. Parce que, comme vous pouvez le voir sur cette carte, vous n'arrivez sûrement pas à lire le détail de la légende, mais sur la carte, ce qu'on peut voir, c'est que finalement, nos constats portent surtout sur le département de la Gironde, un peu aussi sur les Landes avec un projet, mais que l'Aquitaine, du point de vue, je dirais, de sa fertilité en termes de projet énergétique, c'est aussi bien plus que cela. C'est pour ça que ce n'est qu'un aperçu qui ne prétend aucunement à l'exhaustivité, puisqu'on aurait pu évoquer aussi un pôle qui est en voie de labellisation, le pôle Avenia, et un certain nombre d'autres réalisations conséquentes sur la région. Donc, loin de nous, et de moi en particulier, d'avoir prétendu à travers cela à l'exhaustivité. Alors, c'est un voyage qui a démarré à partir d'un embarcadère, je dirais, pour reprendre une image qui sied bien à l'idée de voyage. C'est Cap Science. Il se trouve d'ailleurs que ce centre de culture scientifique, technique et industrielle est situé sur les rives de la Gironde à Bordeaux. Et c'est un centre qui se caractérise pour avoir développé un outil intéressant qui s'appelle ClimCity et qui est le premier jeu interactif en ligne qui permet de réaliser son plan climat et de se sensibiliser. C'est une démarche, il a été question hier d'éducation autour de ces questions-là. Eh bien, c'est une démarche, je dirais, un peu ludique, mais aussi éducative, grand public, et qui a été conçu avec un comité scientifique prestigieux, puisque vous voyez là des contributeurs dont certains vous sont connus. Je pense par exemple à Hervé Letreux, puisque nous avions eu le plaisir d'entendre Hervé Letreux lors d'un séminaire. Michel Ricard, qui a été aussi président du comité français de la décennie des Nations Unies pour l'éducation au développement durable. Enfin, un certain nombre de scientifiques compétents sur le domaine. Et vous voyez que la presse, ça va jusque la revue du MIT qui mentionne l'existence de cet outil en ligne et qui, d'ailleurs, intéresse aujourd'hui à tous les niveaux puisque des demandes de traduction de cet outil, cet applicatif, émergent aussi bien de la Pologne, la Banque mondiale, etc. Alors, nous avons commencé ce voyage de 2 jours, d'abord par un petit temps de recadrage, je ne vais pas rentrer dans le détail, mais nous avions sollicité un ancien chercheur en physique nucléaire qui a été le directeur scientifique auprès du commissariat à l'énergie atomique, c'est Christian Ingo, qui est connu pour écrire un certain nombre d'ouvrages sur l'énergie et qui nous a rappelé les enjeux sur l'évolution de la population mondiale, sur l'évolution beaucoup plus importante de la croissance de la consommation énergétique qui est bien plus forte que la progression de la population, et donc l'idée que de toute façon l'énergie c'est quelque chose d'essentiel au développement humain, mais qui est pris dans un effet de ciseau qui est préoccupant. Le temps suivant de ce premier exposé, qui a été beaucoup plus conséquent que la planche que je vous ai présentée, hein, Christian Ingo et ceux que ça intéressera pourront bénéficier de l'ensemble de son PowerPoint, nous a commenté une quarantaine de slides. Mais tout de suite, nous avons voulu nous intéresser, enfin j'ai proposé que nous nous intéressions, pardon, parce que j'ai de fait été assez directif dans la proposition, connaissant la région, s'intéresser à un phénomène important de l'Aquitaine, c'est son massif forestier. Parce qu'il est apparu que la forêt, son enjeu de captation du carbone, etc., pouvait se sentir, elle aussi, pris en étau avec le développement des énergies renouvelables. J'expliquerai un peu plus loin pourquoi. La forêt en Aquitaine, c'est 1,8 million d'hectares, c'est-à-dire 18 000 km². Avoir une idée, le Liban, c'est 10 000 km². Ben, c'est presque 2 fois la superficie de ce pays. La Gironde étant elle-même le plus grand département français avec ses 10 000 km². Donc 1,8 million d'hectares, c'est 43% du territoire aquitain. C'est donc une surface qui est assez considérable. Et vous voyez sur la carte, pour ceux qui sont le plus près, la carte de droite, avec une essence dominante, c'est le pin maritime, mais une certaine variété si on prend le sud de la région ou les parties du nord-est. Et une caractéristique, il y a ici un de nos collègues qui représente le massif forestier des Vosges, c'est qu'on a une forêt qui est essentiellement privée, familiale à 90%, et forcément que dans sa gestion, ça a un impact. Alors, une forêt qui a été menacée et qui est menacée aujourd'hui par des effets climatiques qui ne sont pas forcément liés d'ailleurs, mais qui sont dévastateurs. Nous avons la tempête de 99, dont on voit qu'elle passe un peu au nord quand même du massif forestier des Landes, c'est la carte de gauche, et sur la carte de droite, vous voyez que les points plus effoncés, plus ce sont des territoires qui ont été affectés par la tempête. Eh bien, c'est le cœur, si on compare à la carte de tout à l'heure, c'est un peu le cœur du massif forestier des Landes, et avec des effets donc, qui pouvaient atteindre, en termes de dégâts, plus de 60% du territoire sur certaines communes, et ça donnait ça. Vous voyez un paysage vraiment de dévastation qui a beaucoup choqué la population locale parce que la forêt, c'est un élément de la culture des Landes et du Grand Sud-Ouest, donc un effet inquiétant. Donc cette forêt, dans ce contexte d'agression, je dirais, climatique en 99 et en 2009. Certains s'interrogent d'ailleurs sur sa pérennité, puisqu'il faut savoir que c'est une forêt qui est née d'une volonté politique de Napoléon III, dans un environnement qui était un environnement marécageux, et donc certains peuvent en venir à se dire, mais est-ce qu'il y a un avenir possible à cette forêt si tous les 10 ans elle se trouve menacée, et sachant que les forestiers commençaient tout juste à sortir de la crise de 1999, crise qui se caractérisait par une possibilité de trouver des débouchés en 99 pour tous les chablis qui étaient à terre parce qu'il y avait à l'époque le marché espagnol de la construction qui était très demandeur, alors qu'en 2009, avec la crise que vous savez, eh bien non seulement il y avait du bois qu'il fallait traiter parce qu'il était tombé par terre, mais en plus des débouchés qui s'étaient économiquement raréfiés, donc y compris un modèle de développement économique de la forêt qui se trouvait remis en cause. Alors, il se trouve également remis en cause parce qu'il est convoité justement dans ce contexte-là par d'autres usages. Et ce qui nous a amené à auditionner le président de la communauté de communes du Gabardon. Le Gabardon, c'est une communauté de communes qui est à la limite du Gers et des Landes, mais aussi du Lot-et-Garonne, là, dans ce que je vous montre, qui réalise aujourd'hui, on ne le sait pas toujours, le chantier de la plus grande centrale photovoltaïque d'Europe. Ce chantier-là, c'est l'équivalent de 500 terrains de football, c'est 1 million de panneaux solaires lorsque ce sera terminé, et donc forcément que ça interpelle aussi sur la dévolution de l'espace forestier aquitain à terme, si ce type de projet se multiplie, et c'est ce qui amène un certain nombre d'élus locaux. Là, je vous ai mentionné un article de presse où un représentant d'élus dit « Le développement d'installations photovoltaïques au sol doit être limité et sans doute il doit faire l'objet d'une planification à l'échelle d'un territoire pertinent. » Ça, c'est l'avis d'élus qui s'inquiète sur cette progression. Et puis, c'est aussi l'avis de l'association régionale qui représente France Nature Environnement, qui, constatant justement que la valeur du revenu, le prix du foncier est plus important que le revenu forestier dans un contexte où le bois ne connaît pas de débouchés pour les crises que j'évoquais tout à l'heure, eh bien, il explique que ça suscite un intérêt des propriétaires forestiers pour céder à la pression des promoteurs du photovoltaïque au sol, au lieu de restaurer les puits de carbone que sont nos forêts. Et donc une inquiétude, même si la commune de Loss, qui est la commune la plus étendue de cette communauté du Gabardon, vous voyez, 308 habitants pour plus de 10 000 hectares. Donc vous voyez la densité démographique de ce territoire, eh bien, elle s'est engagée à acquérir des forêts privées, à boiser des terrains non forestiers, pour faire en sorte justement de préserver, en dépit de ce projet-là, de préserver le caractère sylvicole de son territoire. Alors, une forêt qui présente des enjeux importants, parce que d'un point de vue strictement économique, c'est 34 000 emplois, c'est plus de 2,5 milliards de chiffre d'affaires, mais c'est aussi, pour ce qui nous intéresse, 15 millions de tonnes de CO2 qui sont stockées par an, et donc une fonction de régulation climatique importante, une fonction aussi, je le disais, hydrologique, puisque nous sommes sur des terrains qui étaient traditionnellement particulièrement humides, et le pin a une fonction de stabilisation, d'absorption de l'eau du sous-sol, et y compris lorsqu'il y a eu la tempête, ça a généré des conséquences en termes d'inondations qui, elles aussi, étaient très préoccupantes pour le territoire. Et puis la forêt, c'est aussi ce qu'on appelle des aménités, parce que c'est un cadre de vie, c'est un paysage, et une aménité en matière économique, c'est finalement un bien commun dont il n'est pas vraiment possible d'évaluer la valeur marchande, mais qui constitue une valeur en soi pour l'intérêt collectif. Néanmoins, les propriétaires forestiers, à partir d'études du CEMAGREF, évaluent à 900 euros par an la contribution de la forêt, je dirais, à l'intérêt général, 900 euros par an par hectare. Donc une forêt qui aussi a besoin, face à ces risques récurrents, d'une politique forestière, sinon, eh bien, elle risque de perdre sa fonction régulatrice et du point de vue de l'hydrologie, du climat et de ralentisseur des effets négatifs du climat auquel nous sommes confrontés. Ce sont deux sens. Donc, je ne vais pas résister à vous montrer cette photo parce que, outre la forêt qui se trouve confrontée à l'essor du voltaïque, vous avez même le vignoble. Ça, c'est Journal Sud-Ouest, mardi dernier. Il y a eu une manifestation d'élus et de viticulteurs parce qu'un propriétaire viticole, arrivant à l'âge de la retraite, a cédé à ses enfants et ses 60 hectares qui devraient faire l'objet d'une implantation d'une centrale photovoltaïque. Vous voyez, même dans le pays du vin du Bordelais, on a ce type de projet. Alors, des projets qui donnent lieu néanmoins aussi à des développements technologiques.
Et ça produit.
important, et ça faudrait, on échangera de 4
l'apéro, l'apéro.
Là, c'est une centrale photovoltaïque aussi, nous sommes allés voir, pour le coup, qui est à 25 km au sud-est de Bordeaux, dans une technopole, et qui a la caractéristique de développer un système de panneaux solaires orientables, puisqu'il suit le mouvement apparent du soleil, et donc d'optimiser le rendement, puisque au terme de 2 années de fonctionnement de ce démonstrateur, les concepteurs ont vérifié un gain de 30% par rapport à un système totalement fixe. Un autre apport technologique de la région, que nous avons aussi examiné par la présence et l'audition du directeur de cet établissement bordelais, la SAF, c'est la présence donc de cette usine SAF, qui historiquement était la société des accumulateurs fixes et de traction, une société créée au début du XXe siècle par des électrochimistes d'origine suisse, et qui aujourd'hui est un leader mondial, et qui y compris développe d'ailleurs une gamme d'accumulateurs spécialisés pour des systèmes photovoltaïques, et qui intervient dans l'aérospatial, le ferroviaire, etc., qui est présent à Bordeaux depuis 60 ans, qui aujourd'hui héberge le centre de recherche et développement de la SAFT, et qui s'exporte à l'étranger, puisque ça c'est un article des Échos, et où on dit que Barack Obama permet à SAFT de lancer son aventure américaine, parce que vous savez qu'il y a une ambition des États-Unis de développer la voiture électrique, et c'est SAFT qui, à Jacksonville, va bénéficier de 92 millions de dollars pour cette implantation. Alors, ce n'est plus une entreprise française, mais les parts de SAFT ont été acquises en 2004 par un fonds d'investissement londonien, Deutsche et Hanson. Néanmoins, c'est un fonds européen et avec une branche française, puisque Deutsche Hanson, qui est un fonds qui investit dans l'immobilier et dans l'industrie, même s'il considère à travers son directeur Yann Duchesne qu'il est, comme tout fonds d'investissement, plutôt apatride, c'est quand même une histoire industrielle, je dirais, française, et dont les technologies aujourd'hui s'exportent. Nous avons, après l'audition de ce directeur de cet établissement, aussi échangé avec un autre établissement de la région bordelaise, puisque c'est le campus de Pessac, le directeur d'un laboratoire français important. 230 personnes travaillent dans cet institut de la chimie des matériaux condensés de Bordeaux, et qui du coup a pu développer aussi une synergie de cluster avec la SAFT, et cet institut chimique est spécialisé justement dans le développement des matériaux pour le stockage de l'électricité, donc aussi un élément territorial important en termes d'innovation et de développement industriel. Et qui est au cœur d'un enjeu majeur dès lors qu'on parle d'innovation territoire et d'énergie, parce que le point faible de l'énergie, c'est dans la filière énergétique, c'est le stockage de l'électricité. Et hier, je crois que c'est Jean Damien qui faisait référence à l'image de Christian Engo sur le réfrigérateur qu'on ouvrait, ben, il nous dit, là, vous voyez, 70 grammes d'essence, c'est le même rendement en termes de kilowattheure que 24 kilos de plomb. Alors aujourd'hui, les batteries, c'est plutôt du lithium-ion que du plomb, mais c'est l'équivalent de 3600 kilos d'eau qui tomberait à 100 mètres pour produire une électricité hydroélectrique. Donc, le problème du stockage. On a ensuite appréhendé un atout, je dirais, territorial dans une toute autre dimension, c'est le laser mégajoule. Un projet exceptionnel dont les photos rendent relativement compte, puisque là, c'est la construction de du gigantesque bâtiment de ce laser mégajoule, qui fait 300 mètres de long par 100 mètres de large et 50 mètres de haut, et lui qui ne procède pas d'une volonté territoriale, mais d'une politique nationale de défense avec l'arrêt des essais nucléaires en 1996 et la nécessité de produire des modèles de simulation. Donc je n'entre pas dans le détail, il se trouve que le CESTA, le Centre d'études scientifiques techniques d'Aquitaine, est implanté depuis plus de 40 ans, et donc il a bénéficié de cet investissement colossal qui va implanter sur Bordeaux, qui implante une réalisation unique, puisqu'il existe un seul modèle comparable, il est aux États-Unis. Et qui, au-delà de son enjeu, je dirais, géostratégique, puisque c'est la politique de défense, est ouvert aussi à la recherche et à l'industrie, parce qu'un des défis du XXIe siècle, c'est aussi la question de la fusion contrôlée. Je n'entrerai pas dans le détail de ce qu'on appelle la fusion par confinement inertiel, et puis François T. n'est pas présent, donc il aurait pu bien plus savamment que la piètre vulgarisation que j'aurais pu vous faire vous parler de ces questions-là, mais c'est une voie de la recherche très conséquente, et qui présente aussi un intérêt du point de vue production énergétique à terme, puisque il y a un projet européen qui s'appelle Hyper et qui est un peu le pendant de Cadarache. Il y a deux voies de la recherche pour la fusion nucléaire contrôlée. C'est ce qu'on appelle le confinement électromagnétique. C'est ce qui se passe avec ITER. Et puis, il y a la voie du confinement inertiel qui nécessite des lasers. Et là, un autre de développement, c'est qu'il y a l'idée d'associer à ce qui a été le précurseur, le prototype du mégajoule que je vous ai montré tout à l'heure, qui s'appelle la ligne d'intégration laser, un autre système de laser pétawatt, et qui permet aussi de développer la recherche sur là du très long terme. Tout à l'heure, ExoSun, ça marche aujourd'hui. Ça, c'est une perspective de maîtriser l'énergie du futur au 22e siècle, peut-être. Début du 22e siècle. Mais je rappellerai que lorsque on faisait planter des chaînes par Colbert pour la marine, même s'ils ont servi ensuite à fabriquer des tonneaux pour stocker notre vin, c'était quand même dans une vision long terme. Et un des enjeux du développement industriel, c'est aussi la vision long termiste. Alors, le laser mégajoule, en termes de développement territoire, au-delà de la technologie, c'est toutes les applications technologie laser énergétique, c'est toutes les applications dérivées de la photonique. Donc vous avez deux entités qui servent à le gérer, c'est une société d'économie mixte et un pôle de compétitivité s'appelle Route des Lasers. Donc là, une concentration territoriale assez forte entre le bassin d'Arcachon et l'agglomération bordelaise. Je ne rentre pas dans le détail, vous avez les photocopies des slides. Et nous avons conclu ce rapide tour d'horizon de la diversité aquitaine par l'évocation d'un projet qui a été particulièrement sensible, c'est le projet d'implantation d'un terminal méthanier au Verdon qui était porté par une entreprise néerlandaise qui s'appelle Forgas. Donc vous avez là une carte qui présente les différents terminaux du port de Bordeaux, dont un terminal est très en amont, il existe, il est ici, à cette partie-là de l'estuaire, et on voit les réalisations qui sont actuellement existantes. Et ce projet, j'ai parlé d'impossible consultation, parce que très vite, il a donné lieu, dans le cadre de la commission particulière du débat public, à des confrontations très houleuses. Et là, vous voyez le commentaire de François Aquitaine, vous avez une photographie tout aussi houleuse que les précédentes. La dernière réunion du débat public a accueilli 1200 personnes en quasi-totalité contre le projet. Vous voyez des manifestations d'opposants au projet de terminal méthanier. Mais surtout, un autre aspect un peu troublant, c'est que dès 2008, Dominique Bussereau, qui est également, outre qu'il est secrétaire d'État au transport, président du conseil général du département d'en face, du département de la Charente-Maritime, était, lui, totalement opposé au projet de terminal méthanier. Donc ça n'a pas aidé. Et donc l'épilogue de cette consultation, c'est qu'en juillet 2009, l'État a coupé court à l'instruction de ce projet, aussi bien à charge qu'à décharge, puisqu'il a décidé de ne pas renouveler la convention qui liait Forgas, l'investisseur, au port autonome de Bordeaux, ce qui amène d'ailleurs le port à courir un certain nombre de risques, puisqu'aujourd'hui, Forgas assigne l'État et le port de Bordeaux et réclame 320 millions de dommages et intérêts. Vous voyez ici les deux protagonistes, Dominique Bussereau et Hank Jonkman, qui étaient le représentant de la société Forgas. Et donc, il y a eu pour effet que le Conseil de développement du grand port maritime venait d'être installé suite à la réforme des ports, et bien, a démissionné collectivement. Donc, voilà sur cet aperçu. Bon, ici, on rencontre par la synthèse. Ce que nous avons mis en évidence, c'est qu'il y avait des projets de taille, d'horizon temporel très différents. Et finalement, la question sur laquelle nous débouchons, c'est la question de l'articulation de projets qui procèdent de dynamiques qui sont soit très, je dirais, très larges, nationales. Le LMJ, c'est un projet d'État qui donne lieu aussi à une initiative régionale qui relaie le projet européen Hyper. Vous voyez comment ça s'articule. Et puis d'autres initiatives totalement privées, je pense à la start-up ExoSun dans le développement de ces panneaux solaires orientables, ou des initiatives associatives locales comme Clean City avec CapScience. Donc tout notre propos aussi, on a beaucoup évoqué hier la question de la gouvernance, c'est comment arriver à articuler ces différentes initiatives, et ça va être l'objet des discussions à venir. Je vais ensuite passer la parole à Serge. Thank you. Alors, j'ai bien conscience que ça a été vraiment au pas de charge, et encore j'ai dépassé sans doute le temps, mais vous avez les documents imprimés qui pourront permettre ensuite que vous reveniez, qu'on chacun puisse revenir sur les illustrations concrètes quand on évoquera les aspects d'innovation, d'énergie et ensuite de gouvernance.
Je dis chapeau parce que franchement, quand Luc m'a dit que tu feras ça en 20 minutes, j'ai dit c'est pas possible. Hein,
moi aussi. C'est vrai que nous étions tous en doute collectif.
Quand il veut, il
peut. Donc, bonjour, je suis le remplaçant de Christelle Cochet.
Saint-Étienne, sans problème.
Excusez-moi. Donc, on m'a demandé de présenter quelques éléments de cadrage sur le lien entre territoire et innovation. Alors, on a récupéré une excellente synthèse de Denis Chabot de l'Université de Tours qui traite des systèmes territoriaux d'innovation. Donc, déjà, je peux vous donner la définition de Fischer, qui date de 2000. Un système d'innovation peut être envisagé comme un ensemble d'acteurs et d'entités telles que des entreprises, des organisations et des institutions qui interagissent pour générer, utiliser et diffuser de nouvelles connaissances économiquement utiles dans le processus de production. Dans ces systèmes territoriaux, on a deux grands types d'approches, les approches dites économiques. Alors, ça, c'est la première définition importante, c'est celle de Porter, donc sur les clusters. Cluster qui se définit comme un réseau d'entreprises et d'institutions proches géographiquement et interindépendantes, liées par des métiers, des technologies et des savoir-faire communs. Le cluster a une influence positive sur l'innovation et la compétitivité, les compétences des travailleurs, l'information et la dynamique entrepreneuriale sur le long terme. Donc, vous avez également les approches de Krugman, qui mise sur l'intervention en général politique pour créer un lieu donné à une concentration d'acteurs. Et l'exemple sur lequel il s'appuie, c'est évidemment la Silicon Valley. Là, c'est une initiative du président de l'université de Stanford qui a permis donc un remarquable processus cumulatif eu lieu à travers l'université. Les revenus de la recherche ont aidé à financer l'accès à Stanford au statut mondial en sciences, en ingénierie, et la montée de l'université a fait de la Silicon Valley un endroit attractif pour les firmes de haute technologie. L'autre approche, c'est l'approche par les réseaux. Alors là, j'ai choisi une proposition d'Edalo qui me paraît intéressante, qui dit « L'entreprise innovante ne préexiste pas aux milieux locaux, elle est sécrétée par eux. Les comportements innovateurs dépendent essentiellement de variables définies au niveau local ou régional. En effet, le passé des territoires, leur organisation, leur capacité à générer un projet commun, le consensus qui les structure, sont à la base de l'innovation. L'accès à la connaissance technologique, la présence des savoir-faire, la composition du marché du travail et bien d'autres composantes des milieux locaux déterminent des zones de plus ou moins grande innovativité. Et puis, pour finir, les écoles nordiques sur les régions apprenantes. Donc, c'est notamment, comment s'appelle-t-il, monsieur Lampal. Donc, sur l'apprentissage comme étant au cœur du développement économique, une économie apprenante est une économie dans laquelle les capacités d'apprentissage sont cruciales pour le succès des entreprises et des économies régionales et nationales. L'apprentissage se réfère à la construction de nouvelles compétences, de nouvelles capacités, et pas seulement l'obtention des informations accessibles. Voilà, je voulais redonner ces quelques éléments parce qu'ils me paraissent importants. Et on les a retrouvés. On va peut-être présenter le.
On n'a pas répété, comme notre collègue a été attrapé par la grippe. On est pris un peu dépourvu. Mais du coup, je n'ai pas non plus présenté Jacques Passemard, qui nous fait le plaisir d'avoir accepté d'être notre grand témoin et qui est directeur général de l'Agence de développement industriel. Donc c'est vrai que, comme il est là dès le début, et je pense que c'est important pour qu'il puisse témoigner, je ne voulais pas passer sous silence sa présence.
Merci Luc. J'ai l'honneur d'avoir distribution d'un petit extrait de CV, donc je n'ai peut-être pas besoin de me présenter. Grand témoin, vous m'avez nommé, je crois que ça va être grand candide, parce que quand je vois la qualité du tour de table, je vais plutôt vous écouter, je m'en réjouis personnellement, parce que je vais apprendre beaucoup de choses. Donc j'essaierai de tenir mon rôle. Et peut-être, si vous permettez aussi, de vous donner une cinquième voix sur cette approche de l'innovation, l'innovation dans le territoire, hein, la façon dont nous la construisons.
Donc voici la présentation qui a été élaborée dans Particel. C'est un petit peu les éléments qui sont qu'on a synthétisé entre nous sur l'approche de l'innovation relative au territoire. Donc avec cette idée qu'on est passé, alors centré sur le thème qui est le nôtre, c'est-à-dire l'énergie. Donc l'approche verticale, celle qui nous avait été présentée vigoureusement lors d'un précédent séminaire, fondée sur des politiques très très nationales, descendantes, et en opposition à des approches transversales basées sur l'économie de la connaissance et qui font effectivement appel aux interactions de différents acteurs sur un territoire. Donc l'innovation est multiforme. Donc production d'énergie, alors l'innovation technologique, production d'énergie décentralisée, donc on a vu quelques exemples. Efficacité énergie dans le bâtiment, efficacité énergie dans les transports. Alors, des éléments de marché, parce que comme on est en économie, c'est quand même important de savoir quelles sont les potentialités en termes de business et de marché. Donc, 33 milliards d'euros et 220 000 emplois en 2007, et ça se développe en permanence. Donc, en 2007, 17% de hausse sur les marchés, or à l'horizon de 2012, ces marchés représenteront 440 000 emplois et 200 milliards d'euros. Donc, il y a un fort enjeu pour les territoires à se positionner sur ces marchés en développement. L'organisation, l'innovation organisationnelle correspond à des changements de mode de structure et de nouvelles formes d'organisation du travail, de gestion des connaissances, de nouvelles formes de relations entre les entreprises et leur environnement économique. Donc, effectivement, vous pouvez constater, enfin, nous, quand on est sorti du voyage, on avait tellement de choses dans la tête qu'on ne savait pas comment c'est représenté. L'idée disait, j'ai l'impression d'avoir un plat de spaghettis, je ne sais pas par où commencer. C'est vrai, c'était une vision un peu compliquée d'interaction d'acteurs. Donc, d'un territoire aquitain, par exemple, la forêt comme mécanisme éventuel de compensation carbone. L'innovation par les services, effectivement, aujourd'hui, on constate de plus en plus que c'est plus le produit qu'attend le consommateur, un produit fini, donné, mais un service complet. Donc, de plus en plus d'entreprises industrielles évoluent vers la notion de service. Et par exemple, chez Michelin, on dit maintenant, on ne vend plus des pneus, on vend des kilomètres. C'est plus du tout la même chose. Donc, le bien, en l'occurrence le pneu, peut très très bien rester dans l'entreprise en tant que propriété. Donc voilà, avec effectivement des solutions nouvelles qui se développent sur les territoires. Donc les facteurs communs à l'innovation, la transversalité, ça c'est très très important, parce que par exemple, ces dernières années, on a tendance, la notion des clusters, c'était de développer des filières, des pôles, des filières, par domaine. Et en fait, on s'est aperçu, au bout d'un certain nombre d'années d'expérimentation, que l'exercice avait sa limite, parce que c'est très difficile de générer une innovation dans le même domaine. Et c'est beaucoup plus par la transversalité, en mettant en relation des compétences de domaines différents, qu'on génère de nouveaux produits ou de nouveaux services. La pluridisciplinarité, c'est dur à dire, la coopération dans un espace géographique, la proximité géographique entre recherche et production. Alors évidemment, cette question de proximité est importante. Plus on s'éloigne, plus ça devient difficile de coopérer. Le droit à l'erreur, parce qu'effectivement, quand on innove, on prend des risques et forcément, à certains moments, on se trompe. Le développement de partenariats extérieurs dans le cadre de l'open innovation, c'est-à-dire que là, open innovation, évidemment, toutes les connaissances ne sont pas dans le territoire, il faut aller chercher des partenaires à l'extérieur. Donc, deux visions un peu différentes de l'innovation. La française, assez classique, centrée sur l'innovation technologique, laser mégajoule, voilà, ça c'est une belle innovation à la française. Secteur de référence, les hautes technologies, facteur clé perçu, la recherche publique et privée, zoom sur la création d'entreprises et sur les grandes entreprises. Alors, c'est vrai que par exemple, ici, dans cette diac, il y a eu des débats, je sais, au début, sur les pôles de compétitivité, parce que certains voyaient les pôles de compétitivité entre 6 et 12, maille mondiale, les grands groupes. Et d'autres, c'était l'école plutôt des SPL, en voyaient beaucoup plus avec une vision beaucoup diversifiée de l'innovation liée plus à des groupes de PME. En Grande-Bretagne, plus une vision centrée sur l'innovation créatrice, beaucoup plus ouverte, avec des secteurs de référence qui sont les industries créatives, le multimédia, le design, la publicité. Alors le design, on n'en parle pas beaucoup, mais effectivement, c'est quelque chose, on parle de transversalité, c'est une discipline éminemment transversale qui peut s'appliquer à tous les domaines, qui ne coûte pas très cher, et qui peut générer beaucoup d'innovation. Et là, c'est effectivement la créativité qui est le facteur clé, avec un zoom sur les PME. Le territoire, donc le territoire géographique, concentration géographique des activités liées à l'innovation, la production, moins agglomérée que l'innovation, les facteurs de polarisation, la demande sur place, les infrastructures de services et les externalités de connaissances qui permettent à un agent économique de bénéficier des activités intensives en connaissances menées par d'autres et ainsi de réduire ses propres coûts de production de connaissances. Donc c'est un processus cumulatif qui est lié à la mutualisation. On permet sur le territoire de disposer, de partager des connaissances. Donc c'est un modèle de cluster fondé sur l'ancrage territorial. Le territoire politique, le cadre est défini par l'État, type des pôles de compétitivité, appel à projet, bottom-up, stratégie proposée par le consortium où les collectivités locales sont largement impliquées. Effectivement, la réponse, les collectivités font partie de la réponse aux côtés des autres acteurs économiques. Donc, quelle place pour les collectivités? Garantir un écosystème favorable au développement du cluster. Le territoire vécu, systèmes territoriaux imbriqués dans les réseaux sociaux, rôle clé de la confiance dans la diffusion de l'innovation via les structures professionnelles, les réseaux d'échange, les réseaux familiaux, développement des plateformes collaboratives comme outil d'innovation. Alors, c'est vrai que jusqu'à présent, on a peu, dans les démarches, les politiques, impliqué les acteurs du territoire, les acteurs des gens du territoire. Et on a pu constater que quand on ne faisait pas, ça crée des problèmes à la fin. Et on a pu aussi constater, par exemple, le succès, on n'a pas trop pas insisté, Luc, mais Capcien, c'est le logiciel qu'ils ont développé là, pour simuler le développement durable des territoires, un succès mondial. C'est vraiment quelque chose. Pourquoi? Parce que tout le monde peut se l'approprier et se projeter une vision de ce que c'est ce développement si complexe du territoire par rapport à ces nouveaux enjeux. Les perspectives, donc là c'est plutôt une perspective d'ouverture, des clusters de niveau européen, faire émerger en Europe des clusters de niveau mondial basés sur l'excellence technologique industrielle, la concurrence internationale. Et donc là, l'enjeu, c'est de développer l'interclustering. Alors moi, personnellement, j'appelle ça la dynamique de l'innovation territoriale, c'est-à-dire que comment on part d'un territoire de base, petit, avec par exemple les chambres de commerce ont beaucoup de sensibilisation sur l'innovation. Elles essayent d'amener des gens dans les démarches. Parfois, on a aussi des clubs d'entreprises qui traitent de ces sujets de manière un petit peu en première approche. Ensuite, on arrive à créer des communautés d'intérêt à un niveau plus large, qui peut être celui de l'agglomération, du département. Ça, c'est tous les SPL, les GRAP aujourd'hui, appel à projet en cours sur les GRAP. Et puis ensuite, avec un degré de maturation supérieur, on arrive à s'approprier le changement. Donc là, on passe plus au niveau maille régionale en général ou interrégional, c'est les clusters de type régional ou les pôles de compétitivité. Et puis, in fine, quand on a intégré le changement, on peut aller dans l'interclustering au niveau européen international. Voilà, c'est important de dire ça parce que l'innovation, ce n'est pas quelque chose qui est ou qui n'est pas à un moment donné, c'est quelque chose qui est en perpétuelle évolution avec des partenariats qui eux-mêmes sont en évolution. Donc, c'est quelque chose qui pour moi est fondamentalement une dynamique. Voilà. Et le rôle des collectivités, c'est d'accompagner et de faciliter cette dynamique pour lui donner le plus de percussions possible. Voilà, j'espère avoir été à la hauteur de l'auteur.
Oui, là je tiens à dire que vous avez assisté au second exploit de la matinée, parce que autant nous étions en doute collectif que Luc puisse tenir son délai, je ne voudrais pas dévoiler des secrets d'alcôve, mais quand même, dimanche dernier, nous avons eu une conférence téléphonique à quelques-uns, et ceux qui ont assisté ont pu voir cette foire d'empoigne entre Serge et Christelle. Serge n'était absolument pas d'accord avec ce que Christelle avait prévu. Et Christelle qui fait ce coup de jarnac d'être malade, et Serge qui je pense que vous n'avez pas, vu, il n'y avait pas l'ombre d'un débat. Tu
ah non, j'ai parfaitement... pas pu l'avoir au téléphone.
Voilà. Mais alors, tu n'es pas d'accord avec ce que tu viens d'exposer? Oui, là, je trouve.
Non, si, je suis tout à fait d'accord. A... Non, mais les échanges ont été effectivement
vifs,
chauds, mais la présentation telle qu'elle l'a, je m'y reconnais.
D'accord. Et pour nous éclairer, la controverse portait sur quoi?
Non, c'est-à-dire qu'on n'accordait pas la même importance au même sujet. Voilà. Elle était très fixée sur une scène, je ne sais pas quoi.
Moi, j'avoue que je n'ai pas tout compris. Hein.
D'accord.
C'est un peu le débat intime.
Voilà. Exactement.
Okay.
Donc, la parole à Jean-François, Hélène.
Alors, on va passer une page de pub. Le PowerPoint de Jean-François, il était sur une chaîne, il l'a installé. On va peut-être reprendre du temps. Pourquoi? Parce que Jacques a dit, bon, puis-je être un grand témoin à la hauteur d'un jeu. Moi, je crois justement que c'est tout l'intérêt d'avoir un grand témoin, d'avoir la qualité de Jacques, mais qui en plus est vraiment impliqué aussi concrètement dans le territoire. Parce que 2ADI, c'est l'agence Aquitaine de développement industriel. Et donc, nous avions une thématique autour de énergie, innovation et territoire. Alors certes, il y a la dimension politique de la gouvernance, et nous aurions pu solliciter un élu régional, mais on est la semaine de... on est juste avant le congrès de l'ARF, c'est la semaine prochaine. Et puis, il y a aussi quelques échéances qui font que ce n'est pas la période la plus facile pour mobiliser des élus régionaux qui auraient sûrement beaucoup à dire, hein, ça c'est clair. Mais ce qui est intéressant, c'est peut-être de voir aussi comment quelqu'un qui est plus dans le développement concret de l'activité industrielle perçoit les enjeux de gouvernance dans ces préoccupations d'articulation de différentes échelles de territoire et différentes échelles de temps. Je pense que ça légitimait tout à fait la présence de Jacques qui a accepté d'être là.
C'est très bien, clairement. Alors, en radar permanent ou à la fin?
Nous avions pensé qu'il pourrait y avoir des temps éventuellement de réaction à chaud lorsque ça pouvait nécessiter vraiment, si les uns ou les autres vous ne teniez pas jusqu'au moment de la table ronde. Voilà. Et puis, bien évidemment, à la table ronde, tu seras un des protagonistes du débat. Et je crois que l'animateur a prévu, c'est Xavier, de te donner le mot de la fin.
François Bregnac voulait dire un mot.
C'est juste une précision. Dans la comparaison France-Grande-Bretagne, il y a marqué innovation technologique pour la France et innovation sur la créativité pour la Grande-Bretagne. Quelle est la... Vous pouvez préciser
Non, en fait, de toute façon, ce n'est pas monolithique. Je veux dire, on a aussi de la créativité en France, heureusement. Donc, c'est des approches, en général, c'est perçu comme ça. C'est ça l'idée, quoi. Voilà, l'innovation ouverte, c'est vrai qu'en France, quand on parle d'innovation, on parle tout de suite le CEA, la technologie, les millions d'euros. C'est un peu ça l'idée, quoi. C'est quelque chose qu'on achète. Alors qu'effectivement, le modèle anglo-saxon est plus ouvert et plus... lié à des interactions, une créativité pure. Voilà. C'est le design, c'est l'idée du design.
C'est pas simplement le CEA en termes d'innovation. Hein. C'est-à-dire qu'en gros, en France, quand on raisonne innovation technologique, même sur les petites structures, genre centres techniques, etc., on travaille toujours sur de la technologie. Alors de temps en temps, on rajoute entre guillemets de la créativité à travers les méthodes de prise, les méthodes d'innovation. Rationalisation de l'innovation, mais tout ce qui est innovation organisationnelle, innovation commerciale, ne fait pas l'objet d'une action publique forte. Tous les outils sont dirigés vers l'innovation technologique.
Je peux vous dire, parce qu'on cite souvent Grenoble comme un exemple en France, hein, au pôle mondial, minologie, tout ça, moi j'en discute souvent avec mes collègues de l'Isère et qui commencent à douter de plus en plus qu'ils ont investi des sommes considérable, et le retour au territoire est pas... Alors, ça a généré de l'attractivité, c'est sûr, ça a généré des choses, ça ne faut pas nier, mais aujourd'hui, le retour en termes de développement local, pour eux, n'est pas à la hauteur des investissements.
Je crois qu'il y a aussi, un retour à avoir de l'innovation, c'est-à-dire que, par exemple, quand on parle de l'iPhone, il y a une innovation technologique derrière, certaines. Simplement, ce pourquoi on achète l'iPhone, il peut y avoir un effet de mode, mais c'est surtout pour les produits qu'il permet d'utiliser. C'est-à-dire, sans l'usage, c'est vendu auprès des gamins qui sont d'excellents ambassadeurs, sans l'usage, tous les logiciels qu'on peut mettre dessus, qui ne sont pas simplement des logiciels pratiques, qui sont aussi assez séduisants. Donc, il y a le design, mais il y a le service qu'on va développer dessus. Et sans cette chaîne qui a à l'innovation technologique, ajoute des usages, et puis un modèle commercial aussi, mais on ne peut pas... Enfin, Elle n'a pas de succès, elle n'est qu'une bonne idée. Mmh. On avait des discussions sur ces sujets aussi.